Bonsoir Nathalie Arthaud, merci d'être sur le plateau.
Bonsoir.
Porte-parole de Lutte Ouvrière, face à vous, en tout cas au moins pour la forme. Bruno Fuchs, bonsoir.
Bonsoir.
Député du Haut-Rhin, porte-parole du MoDem et donc membre de la majorité. Quel bilan, je vais commencer avec vous Nathalie Arthaud, quel bilan faites-vous ce soir? Une mobilisation forte mais qui n'est pas un raz-de-marée ou encore des manifestations gênées, voire empêchées parfois à cause de militants radicaux?
Écoutez, d'abord des manifestations très fortes. Moi, j'ai été quand même surprise, y compris des chiffres du ministère de l'Intérieur.
2,3 millions selon la CGT, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur.
Ce qui est quand même très, très élevé.
C'est important.
Très élevé, 110 000 pour Paris.
Mmh. C'est très élevé
aussi.
C'est
donc 5-6 fois la manifestation du 1er mai de l'année dernière. Enfin bon, voilà, c'est...
Alors, c'était 24 000 selon la préfecture l'an dernier.
Voilà, donc vous voyez, on est à des multiplications par 5. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont emparés de cette journée pour dire que leur opposition à la retraite à 64 ans était intacte. Voilà, pour dire qu'ils ne jetaient pas l'éponge. Voilà, pour dire qu'ils restaient campés, hein, qu'ils campaient sur leur position, qu'ils dénonçaient cette injustice, voilà, et ce que j'ai entendu. Et ça s'est fait dans une ambiance, y compris vraiment dynamique, chaleureuse. Les gens étaient fiers de leur combat, fiers d'avoir su se lever pour dire non, d'exprimer leur colère. Donc voilà, pour moi, oui, c'est une journée très, très, très réussie qui montre que la lutte continue, voilà, tout simplement.
Bruno Fuchs, votre Berto, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous déplorez ces images-là, à savoir que des policiers qui, a priori, sont là pour maintenir l'ordre public, soient pris pour cible par des éléments radicaux, parfois venus d'étrangers, parfois non?
Bah, moi, j'ai vu cette image, je l'ai trouvée choquante, hein, bien sûr. Ça montre que les affrontements avec entre les Black Blocs et les forces de l'ordre sont de plus en, et les forces donc de répression, parce que là, il faut dire ça comme ça, sont de plus en plus violents. Voilà, sont de plus en plus violents. Alors, il y a aussi, à chaque fois, des gens qui reçoivent des gaz lacrymogènes. Il y a eu des manifestants qui ont été mutilés.
Manifestants d'un cocktail molotov envoyé sur quelqu'un. On le voit brûler, là.
Oui, oui, bah, je vous l'ai dit, je trouve ça choquant. Mais vous savez, l'image
choquant,
aussi...
Choquant, mais...
Mais il y a d'autres images qu'on ne voit pas. Les images de gens qui sont mutilés, qui sont éborgnés.
On a même reçu des gens qui avaient été mutilés ou gravement blessés sur le plateau.
Oui, et ben ces images, on ne les voit pas.
Parce que parfois, elles sont difficiles à voir.
Donc ces affrontements-là, effectivement, ils montent. On voit bien que la tension, elle monte. On voit bien qu'ils sont de plus en plus violents. Bon, mais le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est lui qui a voulu l'affrontement. C'est lui qui a créé cette situation-là. C'est lui qui a créé ce blocage-là.
Parce que
on en est à la 13e.
Ils sont pour la réforme des retraites, les Black Blocs. Ils viennent pas pour la réforme des retraites.
Sauf qu'ils utilisent
le bazar et pour essayer.
Ils utilisent le fait que cette situation, elle est bloquée, et elle est bloquée parce que Emmanuel Macron, il a voulu passer en force, alors qu'il le sait depuis le début.
On est dans un cadre constitutionnel.
Alors qu'il sait depuis le début que l'ensemble du monde du travail, qui sont les travailleuses et les travailleurs, les premiers qui sont concernés quand même. Ils sont opposés à ce recul dans leur écrasante majorité. Et pourquoi sont-ils opposés? Parce qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Pourquoi y a-t-il
le départ moyen, c'est des 63 ans, je crois. Le départ moyen en France, ça va être reposé à 64 d'ici.
Sauf que là, ça va être imposé à des ouvriers, ouvrières qui n'en peuvent plus. Et même s'ils ne doivent pas partir à 64 ans et qu'ils font l'objet de carrières longues, ils travailleront quand même 2 ans de plus. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent une immense injustice et surtout, ils sont complètement dans. Voilà, ils savent qu'ils n'y arriveront pas.
Non, mais il faut comprendre l'injustice sans valider ou acquiescer ou. Ou tolérer cette image. Il y a une porosité parfois dans le discours de la gauche, vous l'appelez comme vous voulez, entre l'attitude politique constitutionnelle d'un président de la République, quelles que soient ses idées, je ne suis pas là pour les juger, et puis des éléments radicaux qui profitent de cela. Et on sent bien que parfois, il n'y a pas de deux poids, deux mesures.
Mais vous trouvez normal que le président de la République, que ceux qui prétendent représenter le peuple, se moquent comme ça de ce que les femmes et les hommes peuvent dire, peuvent ressentir, peuvent défendre, ils crient leur opposition.
Mais dans une démocratie parlementaire, c'est aux députés qui représentent la nation.
Alors à quoi cela sert de s'appeler représentant du peuple si ce n'est pas pour l'écouter ?
Poser la question aux députés.
Voilà, et ben voilà, c'est la question que je vous pose.
Bruno,
voilà, parce que j'ai entendu
bien.
Ce que vous
Monsieur
avez dit.
Monsieur le député.
Bien, j'écoute. Vous avez expliqué que c'était bien d'écouter, mais alors
Je parle avec tout le monde. J'étais à Mulhouse ce week-end. J'ai parlé avec tout le monde.
Est-ce que vous auriez voté ? Vous auriez voté pour ?
Oui, j'aurais voté. Pas pour le recul. C'est pas la question dans le texte. Il y a bien d'autres choses que le recul. Vous avez une façon simplificatrice de dire les choses.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a les 1200 euros de retraite minimum. Voilà, 1200 euros qu'on a vu que qui n'existait pas.
La question ne peut pas se poser.
Madame Artaud, est-ce que...
Où est-ce qu'on les milliards ? Moi, j'ai une réponse.
Je connais votre réponse. Allez-y.
Bah, oui, non, mais parce que... Bon, alors, vous parlez de 80 milliards. Alors, le trou, il est estimé entre 12, 15, 20 milliards sur une certaine période.
Ça augmente sur le total.
Tout ça, c'est
tous les ans, 30 milliards pour équilibrer le régime des fonctionnaires. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est une réalité.
Juste le trou, c'est 42 milliards.
Bon, donc, parlons chiffres, en effet, puisqu'on sait que augmenter de 1% les salaires... Ça fait rentrer 1 milliard dans les caisses.
On ne peut pas dire ça. Enfin, je vous laisse terminer, mais on ne peut pas dire ça.
Excusez-moi. Bon, je suis vraiment désolée d'être la seule sur ce plateau c'est tout à fait finançable, qu'on finance parfaitement les milliardaires, qu'on les enrichit et on les fait prospérer de plus en plus au nombre qu'on est. Il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas d'argent pour payer les retraites des anciens. Aucune raison. Si on rétablit les cotisations patronales sur les retraites, c'est 18 milliards. 18 milliards.
C'est 120 milliards chaque année. Ce que coûtent, entre guillemets, les retraites chaque année, c'est 320 milliards.
C'est même pas ce qu'on emprunte tous les ans.
Juste pour préciser pour nos téléspectateurs.
Faites le compte. 18 milliards. J'ai dit 1% les salaires. Mais moi, je suis pour les augmenter de 10%. Ça fait 10 milliards de plus. 18 plus 10.
28.
J'en ai déjà 28. Et en plus, et je suis pour ajouter la taxe de 2% sur les milliardaires. En effet, 2 petits pourcents, qu'est-ce que ça peut leur faire ?
Ça ne peut pas rapporter grand-chose.
Mais bien sûr que si. Ça couvre les 12 milliards. Ça couvre les 12 milliards. Voilà.
Mais on n'a pas besoin de 12, on a besoin de plus.
En réalité, l'argent, il dégouline à un pôle. Ça en est même indécent. C'est extravagant.
C'est le ruissellement d'Emmanuel Macron.
Comment vous financez le grand âge ?
Non seulement je fais tout ça, mais en plus, moi, je demande l'ouverture des livres de compte. Parce qu'en plus de tout ça, non seulement ils sont en train de nous reprendre là deux ans de retraite, mais en plus, ils sont en train de nous faire payer un impôt qui s'appelle l'inflation. Parce que l'inflation sur les produits alimentaires, c'est un impôt qu'on impose à qui ? Qu'on impose aux travailleurs, aux plus pauvres, y compris à celui qui est au RSA et qui donc doit...
Réponse de Bruno Fuchs, et après je voudrais qu'on aille à la Fondation...
Il doit se loger, etc. Et bien, il paye...
À la Fondation de Vuitton. Mais d'abord, la réponse de Bruno Fuchs. Après, je vous emmènerai à la Fondation de
Vuitton. Dans le raisonnement économique, mais plus on augmente les taxes, moins on en produit. Par exemple, on avait un impôt sur les sociétés à 33% lorsque, en 2017... Emmanuel Macron a été élu. Aujourd'hui, il est à 25. En 2017, on faisait 28 milliards de recettes sur l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, on fait 63 milliards. Donc, on voit bien qu'à un moment, lorsqu'on baisse les impôts, on crée de la recette, on crée de la ressource. Alors, il y a des limites, bien évidemment. Mais plus vous allez augmenter les impôts, plus vous allez augmenter les taxes, plus vous avez augmenté les salaires sans qu'il y ait de productivité en face. Moi, je suis pour augmenter les salaires, mais avec une productivité. Et bien, plus vous allez baisser les recettes et plus vous allez créer du chômage. Voilà. Donc, c'est pas magique, l'argent, c'est pas magique. Aujourd'hui, ce pays existe.
Pas magique,
parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans ce pays.
Tous les travailleurs qui bossent dur, ils savent justement, que c'est pas.
Parce
que
ce pays, aujourd'hui, il existe parce que les gens qui ont travaillé dans ce pays.
Chaque euro qu'ils ont dans la poche, je peux vous dire qu'ils triment pour l'avoir, les euros. Alors, ne parlez pas d'argent magique aux travailleurs. Ils savent ce que c'est, justement.
Oui, je sais très bien.
Un euro pour les travailleurs. Alors que, tous ceux qui ne font rien de leurs 10 doigts et qui voient leurs cours boursiers les enrichir de 1 million par jour, parce que c'est ça. On a aujourd'hui des millionnaires dans ce pays. Ils se réveillent le lendemain matin, il y a 8 heures. Ah, bah tiens, ils ont leur fortune a augmenté.
Parce qu'à un moment, ils ont investi. La réponse qu'ils vous font, c'est qu'il y a un, ils ont investi,
si
et qu'il y a les actionnaires qui sont très, très modestes et qui, à un moment, ont choisi d'investir sur la capacité de l'entreprise, et puis qu'ils emploient aussi énormément de monde, et que s'ils n'étaient pas là, ils feraient travailler moins de monde. C'est aussi la réponse qu'ils vous ont faite.
Il faut quand même s'interroger sur une chose, c'est qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de richesses, où il y a de plus en plus de milliardaires, ils sont de plus en plus riches, et qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs ? Vous devez avoir moins de droits, il faut faire des sacrifices, il faut accepter de reculer sur les services publics, il faut accepter de reculer sur les retraites. Il n'y a pas quelque chose qui colle pas, là. Il n'y a pas quelque chose qui colle pas, mais on va où ?
Est-ce que c'est en pas fait, tout simplement lié à la démographie, Nathalie Arthaud? C'est un élément que vous oubliez complètement. C'est ça, c'est la faute des
milliards. Parce qu'on est très peu à travailler. On nous dit, voilà, c'est terrible, il y a de moins en moins d'actifs. Mais regardez les miracles que nous faisons à ce petit nombre d'actifs.
Regardez comment
aujourd'hui les grands groupes prospèrent en France. Regardez les milliards qu'ils ont. On a du 12 milliards, du 14 milliards pour LVMH, on a du 20 milliards pour Total, on a du... Bon, voilà, et on a tous ces chiffres-là qui sont le haut de l'iceberg.
Je vous interromps justement parce que culturel, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vous proposer à tous cette image. 1er mai célébré à leur façon par des militants d'Extinction Rébellion. Je pense que tout le monde connaît ce groupe. Une trentaine de militants qui a choisi de taguer la fondation Louis Vuitton, donc groupe LVMH, accusé d'optimisation fiscale. À peu près la même chose, place Vendôme, prise pour cible par le collectif écologiste Dernière Rénovation. Là aussi, peinture orange. Alors, Fondation Louis Vuitton, je ne sais pas s'ils ont été inspirés par Basquiat et Warhol. Magnifique, évidemment. Alors là, c'est un peu moins bien que du Basquiat et du Warhol. Faut dire. Mais en fait, est-ce que... je comprends, Mme Arthaud, totalement votre sensibilité politique. Mais est-ce que s'en prendre à des milliardaires qui font travailler d'une certaine façon aussi, c'est la bonne façon? Est-ce que radicaliser comme ça, c'est la bonne façon? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aider les gens qui sont dans le besoin? Plutôt que la surtaxation.
Non, mais là, ça pointe un problème essentiel. Enfin, c'est un choix même de société.
C'est le partage des richesses,
mais je suis d'accord. Dans quelle société?
Vous avez votre vision, Emmanuel Macron la sienne, c'est ce que je vous dis.
Mais oui, mais c'est la raison pour laquelle les travailleurs... Je peux vous dire qu'ils se battent et ils n'ont pas fini de se battre.
Mais la gauche n'est pas majoritaire.
Ils n'ont pas fini de se battre parce que si on est dans une société où les dividendes passent systématiquement avant les salaires, où les profits et les fortunes de quelques-uns doivent passer avant les retraites, je peux vous dire que des manifestations et des grèves, il va y en avoir.
Mais l'un ne va pas sans l'autre. Cotisation, taxation des entreprises,
c'est pareil. Justement, à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. Et on va où? On va où? Est-ce que la société, elle en sort grandie de tout ça? Est-ce que y compris ces grandes entreprises, elles nous mènent où? C'est pas que les travailleurs qui est en train de.
Ils ont du job à faire.
Mais ce que je sais aussi, c'est que les ouvrières, des sous-traitants, Arco, Châtellerault, par exemple, ils ont dû faire une grève dure sur les salaires. Pourquoi? Pour 70 euros. Que les employés de Sephora, systématiquement, c'est un sous-traitant de LVMH, Arco, à Châtellerault, vous vérifierez. Il y a eu des grèves à Issoudun, parce que, y compris dans ces entreprises-là, je peux vous dire que même faire en sorte que son salaire suive juste l'inflation...
Tous les économistes ne disent pas. Bruno Fuchs...
Parce que c'est la question du financement.
Bruno
L'argent,
Fuchs,
il doit servir à quoi?
L'image de président des riches qui colle à Emmanuel Macron. Conférence sociale sur les salaires?
C'est quand même très intéressant, cette discussion. Remarquerez que quand il s'agit des travailleurs, eux, on peut les forcer. Eux, on peut les obliger. Contre les travailleurs, pas de problème. On va utiliser le 49-3. Le fouet, voilà.
Ça, c'est contre les députés, c'est pas contre les travailleurs.
Contre les travailleurs, pour leur imposer, effectivement. On va les contraindre. Bon, par contre, le patronat, alors là, faut pas le contraindre. Le grand patronat,
ne caricaturez pas. C'était intéressant jusque-là. Ne caricaturez pas.
C'est pas grave. On
pose une question sur la répartition de la richesse. Mais la question est la même pour le travail, pour la pénibilité, pour les carrières longues.
Il n'y a jamais 49-3 contre le grand patronat, pour le forcer et pour l'obliger. Regardez, aujourd'hui, le SMIC a augmenté de 2% pour qu'il suive l'inflation. Il y a une espèce donc d'indexation du SMIC sur les prix. Mais il faudrait que cette indexation, elle soit générale.
Les économistes disent que ce serait une catastrophe.
Parce qu'il paraît que ça créerait de l'inflation.
Moi, ça m'arrangerait, personnellement, je veux bien.
Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation, elle monte, et tout le monde le dit, y compris le gouvernement l'avoue, elle monte parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et les grandes entreprises, les donneurs d'ordre, l'agroalimentaire, etc., et augmentent leurs marges. Ce sont eux qui créent l'inflation. Ce sont eux. Alors, il faut arrêter à chaque fois.
Et c'est les patrons des grandes entreprises de distribution disent que c'est aussi parce que la matière première augmente, parce qu'il y a notamment cette guerre en Ukraine. On peut tous se jeter la responsabilité.
Bruno Le Maire a un peu levé la voix en disant « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. » Alors, moi, ce que je dis, c'est que... on les oblige à mettre sur la table leur compte et là on verra qui crée justement cette inflation, c'est-à-dire qui se paye Une taxe sur nous, sur nous tous, en effet. Mais voilà, encore une fois,
on attendait de refaire
du gouvernement, c'est contre les travailleurs, c'est jamais contre le grand patronat.
Pourquoi non, ben on attendait de refaire la règle économique.
La main de son maître, c'est ça la vérité.
L'intersyndicale doit-elle répondre ?
On l'a pour le faire.
Nathalie Arthaud, on a vu, contrairement à ce qui s'était passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, les syndicats revenir en première ligne, gagner des adhérents et reprendre leur place d'acteurs, de corps intermédiaires, selon l'expression consacrée. Qu'est-ce que doivent faire, selon vous, les syndicats désormais ? Aller chez Elisabeth Borne, lui mettre la pression, mais sur quel type de sujet ? Comment il doit faire ? Vous êtes plutôt CGT ou CFDT ce soir ?
Non mais ça, bon, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je vois pas du tout ce qui pourrait déboucher d'une telle rencontre. Ben voilà,
reprendre le dialogue déjà, peut-être.
Le gouvernement sur les points essentiels. Hein, reprendre le dialogue. Alors ça, voilà, c'est.
Oui, je suis optimiste.
Oui, effectivement, Borne, elle veut, elle est très intéressée.
Donner le sentiment qu'il y a un dialogue.
Bah oui, elle veut donner le sentiment que voilà, elle dialogue. Mmh. Mais alors là, excusez-moi.
Je vous comprends bien, je vous traduis bien.
C'est quand même particulièrement. Comment dire ? Enfin, ça ne peut pas passer, quoi. Vous voyez ? Ça ne peut pas passer.
Et je sais que vous êtes plutôt partisane de méthodes plus radicales, mais en l'occurrence, si ça doit repasser par le dialogue. Emmanuel Macron retirera son devoir pas sa loi. Il n'y a pas de majorité dans un sens ou dans l'autre à l'Assemblée. Il faut bien qu'à un moment, quelqu'un puisse parler à quelqu'un.
Vous savez, moi, je pense qu'on avance là, en ce moment.
D'accord.
On avance, bah oui. En fait, je pense que le monde du travail, en fait... Il a retrouvé ce chemin de la mobilisation.
On avance vers quoi ?
Eh bien, vers le fait que déjà les travailleurs disent ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est quand même assez important.
Mais à quel moment vous avez le sentiment que ils ne le disaient plus ?
Disent leur vision, justement.
À quel moment vous avez le sentiment qu'ils ne le disaient pas ?
Pardon ?
À quel moment vous avez le sentiment que les travailleurs ne le disaient pas ce qu'ils pensaient ?
Eh bien, pendant tout ce temps où ils ont subi effectivement recul sur recul.
Même avec des gouvernements de gauche.
C'était le cas. Y compris avec des gouvernements de gauche, sans rien dire, sans rien faire. Alors là, ils ont décidé de s'en mêler.
Ils ont dit, Nathalie Arthaud, sur la loi de travail, vous vous souvenez de la loi El Khomri,
Et il y avait déjà eu des mobilisations, etc. Mais
après,
là,
peut-être que ce que vous êtes en train
de.
Ce que vous êtes en train de nous dire, peut-être, c'est que les syndicats ont repris du poil de la bête et que les corps intermédiaires qui avaient été peut-être un peu maltraités jusque-là. Sont un peu revigorés.
Non mais attention, certes, ce sont les confédérations syndicales qui ont mené ce mouvement, qui ont fait les appels, qui se sont... Voilà, et ça a pesé. Mais enfin, ceux qui ont été décisifs et qui ont donné corps à ces appels à manifester, à faire grève, sont bien les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, qui se sont engagés, qui ont fait des sacrifices, qui se sont organisés, qui ont parfois fait grève et ont manifesté pour la première fois de leur vie. Donc pour moi, tout ça, c'est... Oh, combien positif que les travailleurs se réemparent, justement.
Ce blocage politique que vous décrivez.
De la politique qui s'en mêle, qui ne la laisse pas, justement, à des députés censés être des représentants du peuple, alors qu'ils représentent en réalité.
Leur circonscription.
Le grand patron. Mais non, pas leur circonscription, parce que, y compris dans toutes les circonscriptions, ils ont entendu les députés, la population s'exprimer sur cette question des retraites. Non, ils représentent un certain ordre social, effectivement, les intérêts d'une minorité,
il faut jamais
toucher à eux, jamais toucher à leur fortune.
Mais pour l'instant, lutte ouvrière a plutôt fait un score assez faible.
Oui, mais ça, c'est pas la question.
Mais le blocage
politique
vers lequel on avance, puisque c'est ce que vous décrivez, ça va déboucher sur quoi ?
Eh bien, moi, j'espère que ça va déboucher sur une conscience encore plus forte, sur des luttes, et des luttes qui permettront de remporter l'avantage.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
le rapport de force,
lutte ouvrière n'arrive pas à prendre la place qu'a pris LFI, que prennent d'autres mouvements. C'est pas pour la critique ou mignonne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre discours n'imprime pas, dans les urnes en tout cas ?
Oui, non, mais là, vous êtes d'accord que ce que je vois de positif, c'est ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les entreprises.
Mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent, qui étaient dans la rue pour vous rejoindre ?
Là, les travailleurs, ils peuvent pas se tromper. Les démagogues, Le Pen, ils n'ont pas de prise sur le mouvement.
Mais Marine Le Pen et son parti, l'électorat populaire, la suite.
Démagogue de dire aux gens, vous faites moins d'enfants, il y a un déséquilibre démographique, mais vous allez travailler que jusqu'à 60 ans, moins que tout le monde, mais vous aurez plus d'argent parce qu'on va juste prendre aux riches. C'est pas démago, ça ?
On va prendre sur les profits qu'on contribue tous à créer. Parce que vous savez, ces profits, c'est quand même le fruit du travail. Et ce qu'on constate...
Bernard Arnault, il ne travaille pas ?
C'est que
ce que vous voulez dire ? Ouais, je le prends lui parce que c'est un peu la tête de turc préférée de la gauche.
Non, excusez-moi, mais ceux qui font la richesse et qui, y compris, je connais des ouvrières qui fabriquent ces petites malles, Vuitton, etc. Elles en fabriquent des fois un par jour. Elles sont vendues, ces petites mallettes, à 1500, 2000 euros. Bah, elles, c'est pas leur salaire du mois. Vous voyez, en une journée. Donc, les richesses, elles sont, et ces profits, ces dividendes, ils sont le fruit du labeur et de la sueur des travailleurs. Donc, ils ne volent rien à personne, je peux vous
dire.
C'est simplement quand ils ont des salaires et quand ils ont des retraites et quand ils ont des hôpitaux qui fonctionnent et des écoles qui fonctionnent, ils n'ont que. Ils ont ce qu'ils ont contribué à créer, à faire fonctionner. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est là où ils deviennent plus forts, c'est justement en se battant, en s'emparant. Et ce n'est pas les élections.
Vous évacuez
c'est pas les élections
totalement
où ils se remettent à je ne sais pas quel sauveur suprême qui va brandir je ne sais quel préjugé pour attirer les voix.
C'est le modèle
positif.
Bruno Fuchs, en dehors de modèles de France différentes, comment vous...
De ce nouveau quinquennat.
Ou Nathalie Arthaud à Matignon.
Il faut revenir aux fondamentaux.
Est-ce que si on vous proposait Matignon de façon directe, on va dire, vous iriez pour... Mais pourquoi pas, après tout, s'il faut deux visions de la France, c'est possible.
Non, mais moi, je crois clairement que pour améliorer le sort des travailleurs, il faut s'affronter avec la bourgeoisie. Voilà, c'est une question, effectivement. Voilà, il y a des intérêts qui sont contradictoires. Ils savent très bien. Le grand patronat sait très bien que s'ils veulent faire monter leur cours boursier, s'ils veulent faire monter leur fortune, il faut qu'ils restreignent ce qu'ils appellent la masse salariale, c'est-à-dire qu'ils suppriment des emplois, qu'ils augmentent les cadences, qu'il faut qu'ils écrasent les salaires, qu'il faut qu'ils payent effectivement le moins d'impôts, le moins de cotisations.
Non, mais ça, c'est une vision qui n'a pas été le
C'est pas une vision, c'est la logique 2017. Même sur laquelle est assise le système capitaliste.
Madame Marteau, Bruno Fuchs, 10 secondes, et après, je vous le dis. Bruno Fuchs,
c'est ça qui fait qu'une minorité peut s'avoir des privilèges.
Je voudrais le mot de conclusion de Bruno Fuchs, c'est un peu moins
là-dessus, je veux dire, c'est un discours que vous faites depuis une quarantaine d'années.
Oui,
mais
je continue.
Depuis 2017.
C'est de plus en plus visible.
Il y a plus d'un million et demi d'emplois qui a été créé. Il y a un nombre important de taxes qui ont été baissées. Donc voilà.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'avoir été là ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce soir. Je vous retrouve, je crois que c'est lundi prochain, qu'on se reverra pour le 8 mai.
À lundi.
Je serai l'ami du lundi.